tout un programme. Savez-vous qu'un adulte normal dira en moyenne aujourd'hui, ainsi que tous les jours, 17 400 mots à 7,4 personnes. Ça signifie, parce que j'ai fait le calcul, 6 351 000 mots par an. Ça signifie qu'à l'âge de 60 ans, un adulte aura prononcé en moyenne 374 709 paroles. Ça fait peur, hein ? Pire encore, nous avons entre 50 et 70 000 pensées par jour. T'imaginais ça ? Ça signifie 18 250 000 pensées par an. Alors là, j'ai pas fait le calcul parce que je me suis dit j'arriverai même pas à lire le chiffre. Ça m'a donné le tournis. À titre de comparaison, la Bible contient que 31 171 versets. C'est peu, hein ? C'est très peu par rapport au flot de paroles dont on est inondé tous les jours. Alors j'ai cherché, j'ai vraiment beaucoup cherché, combien de paroles Jésus avait prononcées. Alors ça c'est compliqué, vraiment difficile à trouver. J'ai trouvé deux chiffres. Alors, j'ai trouvé 1026 et 2024. C'est un peu compliqué à déterminer parce que beaucoup de paroles ont été rapportées par les apôtres. On n'a pas vraiment de certitude que Jésus a dit ce jour-là telle et telle, telle chose. On a une idée évidemment. Mais en plus de ça, ça complique les choses parce qu'il y a différentes versions de la Bible. Et puis, certains épisodes ont été rapportés plusieurs fois par plusieurs personnes. Donc, c'est un peu compliqué d'évaluer le nombre de paroles de Jésus. Mais disons qu'entre 1000 et 2000, on a une fourchette. Imaginez un peu que nous nous mettons... Alors, avec ces chiffres en tête, imaginez-vous qu'on dise tout ce qu'on pense tout le temps. Vous imaginez ? Le nombre de mots, le nombre de paroles, le flot incessant qui nous envahirait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parlerait autant ? Est-ce que ce qu'on pense, est-ce que si on dit ce qu'on pense tout le temps, est-ce que ce qu'on pense, ça intéresse vraiment les gens ? Ah, vaste question. Faisons un test. Cette semaine, donc au cours des 7 derniers jours, combien de fois vous a-t-on expressément demandé « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Précisément, hein. Combien de fois quelqu'un est venu vous voir, vous a dit voilà, qu'est-ce que tu penses de tel sujet ? Donc, il se peut qu'on vous l'ait pas demandé, hein, tout simplement. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais en moyenne, combien de fois est-ce qu'on vous l'a demandé ça cette semaine ? Peu, très peu. Et ça aussi, ça fait peur. Ça veut dire qu'en fait, on passe notre temps à donner notre avis et que, en gros, ça intéresse peu de gens. Peu de gens. En réalité, c'est ça que ça veut dire. À part en de très rares occasions, tout le monde s'en fiche de ce qu'on pense. À part dans de très, très rares occasions. Et dans ces cas-là, on vous le fait savoir. C'est-à-dire que la personne vient vous voir et vous dire, tiens, je voudrais ton avis, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela. Mais hormis ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire tout ce qu'on pense tout le temps? Est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je suis quelqu'un qui donne volontiers son avis. Je suis quelqu'un qui parle volontiers et qui donne volontiers son avis. À une période de ma vie, j'ai même été connue pour ça. C'est-à-dire que on venait me voir pour avoir mon avis, ou alors on me craignait carrément parce que je donnais mon avis à tire-larigot tout le temps, et forcément, c'était pas fait dans les bonnes conditions. Donc à un moment donné, j'étais même connue pour ça. Mais il se trouve que depuis quelques semaines, enfin depuis cet été, je dois dire, le Seigneur met l'accent là-dessus. Est-ce que vraiment on est obligé de dire tout ce qu'on pense ? Est-ce que le fait de savoir qu'un tel, un tel pense ça, ça m'édifie ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça m'est utile à moi, mais est-ce que c'est utile aux autres ? À quoi ça rime tout ça ? Donc depuis quelques temps, je laisse le Seigneur me travailler là-dessus, me montrer des choses, me révéler des choses, et je m'efforce de maîtriser, parce que ça me demande un effort, je m'efforce de maîtriser... ce petit bout de chair qui se trouve entre là et là, voilà, et qui presque fonctionne tout seul tout le temps, quoi. Donc j'essaie, je fais des efforts. Pourquoi ? Parce que nous le savons, d'ailleurs on a eu un très bon message de notre pasteur il y a 15 jours sur le sujet, les mots sont incroyablement puissants, ils sont chargés de puissance, ce sont pas des choses comme ça vides de sens, des coquilles vides. Ils peuvent construire les mots, ils peuvent encourager, motiver. Les mots peuvent aussi blesser, démolir, construire, causer d'horribles cicatrices. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui à l'âge adulte avec des cicatrices dans leur corps de mots qui ont été blessants dans leur enfance. Et on se trimballe ces cicatrices-là à l'âge adulte. La Bible nous rappelle dans Proverbe 18-21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut nous rappeler sans cesse que chaque mot compte pour Dieu. Chaque mot compte pour Dieu. Pourquoi ? Parce que la vie et la puissance de Dieu sont en chacun d'eux. Réécoutez le message du pasteur il y a 15 jours, il était vraiment excellent, il expliquait très clairement les choses. Dieu garde une trace de chacune de nos paroles. Il faut le savoir. Dieu garde une trace de chacune de nos paroles. Jésus dit dans Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les gens devront rendre compte de toute parole insouciante qu'ils diront. » C'est-à-dire qu'un jour viendra, mes amis, où on aura à rendre compte de chaque mot qu'on a prononcé. Dans les bonnes, dans les mauvaises conditions, dans les bons, dans les mauvais jours, de la bonne, de la mauvaise façon, à la bonne, à la mauvaise personne. Chaque mot, Dieu se rappelle de chaque mot et nous devrons rendre compte de ça. Jésus était pleinement conscient de la nature potentiellement dévastatrice de nos paroles. C'est pour ça qu'il nous avertit dans Matthieu 12. Vous connaissez l'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Cette expression-là, vous la connaissez ?« Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Eh bien, elle est très vraie, cette expression. Parce que c'est pas parce que vous pensez quelque chose que vous êtes obligé de la dire, de la prononcer, de mettre des mots dessus. Une pensée peut très bien rester à l'état de pensée. Elle n'est pas obligée d'être articulée à chaque fois. Nous devrions, parce que sinon, ça donne ce que je vous ai dit au début, ça donne 50 à 70 millions de pensées parlées par jour. Ça donne un flot incessant de paroles. Comment reconnaître la vérité au milieu de ce flot incessant de paroles? On n'a pas besoin de tout articuler. Alors, ça va? Je vous perds pas trop avec les... Non? Bon, moi j'aime les esprits vifs, les gens qui vont vite. J'aime les gens qui prennent des décisions rapides, qui ont des avis tranchés. Je suis mariée avec quelqu'un d'extrêmement tranché. Très tranché et qui exprime très souvent ses opinions. Vous voyez pour qui je prêche ce matin. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de ce genre de personnages dans mon entourage, des gens qui étaient très tranchés, très directs, très voilà. C'est des gens en qui je me reconnais, on parle le même langage. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il y a un moment donné où il va falloir remettre les choses à leur place et vérifier que chaque parole qu'on dit est juste et utile. Peu de personnes, en réalité, je me suis rendu compte en faisant cette étude, peu de personnes savent émettre un avis parce que c'est pas le fait d'émettre un avis qui est mauvais. C'est comment on émet cet avis. Dans quelles conditions il est émis. Et je me rends compte que, dans mon entourage, avec tous les gens que je connais qui sont très directs et j'aime ce contact-là, peu d'entre eux savent donner leur avis correctement. Comment est-ce qu'on doit donner un avis? De la façon dont nous enseigne la Bible, c'est-à-dire qu'il faut être sincère, il faut donner son avis avec sincérité et amour, sincère, parce que votre oui doit être oui, votre non doit être non, comme le dit la Bible. Et puis, la Bible nous enseigne aussi à aimer notre prochain. Donc quand on donne un avis, il doit être sincère, mais il doit être motivé par l'amour. Et peu de gens savent donner leur avis de cette façon-là. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais que tout soit motivé par l'amour. Et ça, c'est beaucoup plus rare à rencontrer. Pourquoi sommes-nous si prompts à déclarer publiquement ce que nous pensons des autres? Pourquoi est-ce qu'on est si rapide à donner notre avis sur tout le temps, en permanence? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on est aussi prompts à se remettre nous en question? Est-ce qu'on est aussi prompt à poser des jugements sur nos décisions, sur nos propres décisions? Est-ce qu'on est aussi prompt à poser le même regard critique? Parce que le sens critique est une bonne chose, la critique tout court est une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on est aussi prompt à poser un regard critique sur nos propres décisions, sur nos propres paroles, sur nos propres jugements quand on en fait? Juste réfléchissez à ça 2 minutes. En tant que parent, frères, cousins, employés, en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de notre vie. Nous devons tout simplement apprendre à plus dire ce qu'on pense, tout le temps. Pas à ne plus dire ce qu'on pense, mais à ne plus le dire en permanence, parce que tout n'est pas utile. Imaginez un peu qu'on se mette à dire tout ce qu'on pense tout le temps à nos conjoints, par exemple. Trois jours, ce serait la guerre. C'est sûr, ce serait la guerre. Imaginez-vous dire tout ce que vous pensez tout le temps à vos enfants. Ce serait super destructeur. Les enfants, bien sûr qu'on les aime, absolument, on les aime, sans condition. Mais il y a des matins où, franchement, il saoule. C'est vrai ou pas? Il y a des matins, c'est compliqué avec des enfants. Ou le soir, après une journée de travail harassante, le petit caprice de trop, c'est juste pas possible, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tient notre langue? Ou on dit tout ce qu'on pense à cet enfant qu'on a juste envie d'étouffer, quoi? On peut pas faire ça. On peut pas laisser un enfant se construire avec des paroles en l'air en permanence. On peut pas laisser un enfant se construire, ou même pas que les enfants, les jeunes adultes. Et puis même nos conjoints, on peut pas sans arrêt les mettre face à des pensées qui sont pas toutes utiles et certainement pas toutes motivées par l'amour. Donc voilà, des petits points de réflexion comme ça. Donner son avis tout le temps, ce serait aussi une occasion ridicule de déjà rabaisser ceux qu'on aime, hein, comme on vient de voir, puis augmenter le niveau de tension. Vous imaginez, vous pointez au travail le matin, et puis vous dites tout ce que vous pensez à vos collègues ou à votre patron, c'est pareil. Je veux dire, vous travailleriez sous tension en permanence. Donc donner son avis, on s'aperçoit que c'est ni bon, ni utile, mais même au quotidien, même dans le monde du travail. C'est utile à tous les domaines de la vie en réalité. Apprendre à se taire. Proverbe 10:19 dit « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de prêcher, mais celui qui retient de pécher. » Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de pécher. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Voilà. À trop dire, à trop parler, à trop discourir, forcément à un moment donné, il y a le mot de trop. Éphésiens 4:29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. » Et là, c'est la partie que je préfère. « Mais, virgule, s'il y a lieu, virgule, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de tous. » J'aime beaucoup cette seconde partie du verset. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Donc s'il y a lieu, quelques paroles, mais en plus pas n'importe quelle parole, quelques bonnes paroles servant à l'édification de tous. Ça signifie que si c'est utile, vous parlez quelques paroles. Si c'est édifiant, vous parlez quelques paroles. Sous-entendu, c'est que si c'est pas utile et si ce ne sont pas des bonnes paroles, taisez-vous. Taisez-vous, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire quelque chose de gentil, ne dites rien. C'est en résumé ce qu'il faut qu'on s'applique à soi-même. Apprenons à nous taire. C'est aussi ce que veut dire ce verset. Faisons de temps en temps silence. Alors, décider de faire silence, ça peut avoir un autre revers, c'est qu'il se peut que, selon notre cas, on doit faire silence pendant assez longtemps. Eh ben, c'est pas grave. Faisons silence pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nos pensées s'alignent avec la parole de Dieu. Donc, ça peut être rapide comme ça peut prendre du temps. Mais ce moment de silence est parfois nécessaire. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Pour réussir à changer son discours, donc ses paroles, ses pensées, je dois d'abord changer ma façon de penser. Et c'est pourquoi la Bible dit que pour un chrétien né de nouveau, la chose la plus importante, primordiale à faire, c'est de renouveler ses pensées. Et comment fait-on pour renouveler sa pensée? On la renouvelle en étant en contact avec la parole de Dieu, en étant en contact avec Dieu le plus souvent possible. Pourquoi devons-nous renouveler nos pensées? Parce que si nous voulons que nos pensées s'alignent avec la parole de Dieu, il nous faudra aligner nos pensées. Ça aura comme conséquence, d'aligner nos pensées avec la parole de Dieu, qui aura comme conséquence d'aligner nos émotions avec la parole de Dieu, ce qui aura pour conséquence que nos décisions quotidiennes soient alignées avec la parole de Dieu, ce qui aura pour conséquence, enfin, que nos actions soient alignées avec la parole de Dieu. Que nos habitudes soient alignées avec la parole de Dieu. Et puis pour finir, que tout notre caractère, que notre être entier soit aligné avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on cherche en tant que chrétien. Et tout ça, c'est un processus. Et il faut absolument que nous comprenions que c'est un processus. Pourquoi? Parce que si c'est un processus qui est mis en contact avec la parole de Dieu, nos pensées, nos actions, nos décisions, nos émotions s'aligneront sur la parole de Dieu. Mais si elles sont pas mises en contact avec la parole de Dieu, si elles sont mises en contact avec le monde, nos émotions, nos pensées, nos actions, nos paroles, tout sera aligné avec le monde. C'est un processus qui doit se faire de toute façon. Alors qu'il soit fait selon la parole ou qu'il soit fait selon le monde, c'est un processus qui prendra place de toute façon. C'est une suite logique. Et le résultat de ça, de ce processus, c'est que si mes pensées sont alignées avec la parole de Dieu, alors j'ai peu de choses à dire. Je vois Florence qui me regarde désespérée. Ben oui, si nos pensées sont alignées avec la parole de Dieu, finalement, on a peu de choses à dire. Ecclésiaste 5, 1 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Donc si on veut aligner nos pensées et nos paroles avec la parole de Dieu, bah, on s'aperçoit que ce n'est pas 17 400 paroles par jour que nous aurons à dire. C'est beaucoup moins que ça. Dieu ne nous a pas déversé un flot incroyable de paroles. Toutes ces paroles sont tellement importantes, puissantes, chargées de vie, que peu sont nécessaires. Peu de mots sont créateurs, peu de mots sont utiles pour créer la vie, pour créer les choses. Quand Dieu a appelé la lumière, quand il a créé le monde, il n'a pas fait de grands discours pour créer les choses. Il a juste prononcé le mot « eau, lumière, terre » et ça s'est fait comme ça. C'était pas de longues phrases. Donc si on veut vraiment que nos pensées, nos paroles, tout notre fonctionnement s'aligne avec la pensée de Dieu, ben, naturellement, on se mettra à beaucoup moins parler et à nettement moins donner son avis. Ça va? Certains diront, bah oui, mais tu sais, moi, j'ai pas toujours le temps de me plonger dans la parole, mais bon, tu sais, je viens à l'église, je participe un peu au groupe, tout ça, bon, ça va, je suis pas sans rien, quoi. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que si on fait le compte de tout ce qu'on passe comme temps dans la parole et de tout ce qu'on passe dans le monde, à un moment donné, ce qui prend le plus de place influencera les pensées. Donc attention à ça. On a tout intérêt à diriger nos pensées sur les choses de Dieu si nous voulons parler les choses de Dieu. Au lieu de parler des choses vaines, si on parle des choses vaines, on verra des choses vaines s'accomplir. Tous les parents ont un jour ou l'autre laissé échapper une parole d'agacement, justement. Donc, je prends souvent l'exemple de mes enfants, mais ça peut aussi s'appliquer dans d'autres domaines, dans le travail notamment. Que celui à qui ça n'est jamais arrivé lève la main, hein, mais un jour ou l'autre, on a toujours dit une parole un peu agacée. Ce que je veux vous dire, c'est que grâce à Dieu, je ne connais personne ici chez qui c'est un mode de fonctionnement, un vrai mode de fonctionnement, quelque chose de récurrent. Donc, c'est quelque chose de rare. Chez moi aussi, je ne dénigre pas mes enfants de manière systématique. Mais dans certaines familles, je sais que c'est un mode de fonctionnement. Dans Proverbes 21-23, il nous est dit, une personne qui surveille toutes ses paroles se protège contre le malheur. Et donc ces paroles d'agacement qui peuvent être sommées donc dans la vie des enfants ou dans la vie des personnes de votre entourage, on ne se rend pas compte, mais en réalité, ce sont des paroles qui sont semées dans leur vie et qui vont préparer des malheurs, qui préparent des malheurs. On sait que la parole est constructrice, elle apporte la vie quand on parle la vie, mais elle apporte le malheur quand on parle le malheur. Donc attention à la façon dont vous vous adressez aux gens, et notamment aux enfants. Une maison pleine de critiques est une terre propice à la rébellion et à la négativité. Lorsque votre enfant, mais c'est valable pour votre conjoint, votre patron, vous a poussé à bout, plutôt que d'exploser et de répondre du tac au tac, de la mauvaise façon, calmez-vous, réfléchissez à la question, et réfléchissez surtout à la réponse que vous allez fournir. Ensuite, faites un commentaire approprié et constructif si c'est utile. Parce que parfois, même si on se sent blessé, même si on a l'impression de vivre une injustice, c'est pas toujours nécessaire de répondre. Parfois, la réponse apportée est pire que l'événement qui s'est produit juste avant. Parfois, on a l'effet contraire. Parfois, alors que les choses se sont calmées, pourquoi remettre ça sur le tapis? C'est inutile. Pourquoi ramener ça encore une nouvelle fois dans la discussion, avec le danger de reprendre un discours qui est négatif et néfaste? Ça n'est pas toujours utile. Ça n'est pas toujours utile. Demandez plutôt à Dieu de vous faire justice plutôt que d'essayer de vous le faire vous-même. Ne dites pas tout ce que vous pensez. C'est inutile. Parfois, bien souvent, on blesse la personne qui est en face de nous et on crée une distance entre elle et nous. Ce sont des paroles qui créent une distance. Donc, c'est pas toujours utile. Souvent, les choses sont plus compliquées à reprendre après. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que dans la vie, tout n'est pas centré sur nous. Parce qu'en fait, c'est ça, donner son avis. C'est donner mon avis. Je te dis, je t'explique que je pense ceci, je pense cela. À mon avis, il faudrait que, il faudrait ça. Et je trouve que, et voilà, c'est je. Donc en fait, quand on donne son avis, on pense aider la personne en face. Bien souvent, c'est ça qu'on essaie de faire. Oui, mais tu comprends, moi à ta place, je ferais ci, moi à ta place, je ferais ça. Mais d'abord, premièrement, je ne t'ai pas demandé ce que tu ferais à ma place. Si je te le demande, ben je te le demande. Mais si je ne te le demande pas, c'est pas la peine, c'est pas utile. C'est pas utile. Quand on a été blessé par des paroles qui ont été données sans qu'on nous demande, sans qu'on les demande, sans qu'on aille les chercher, ce sont des blessures qui sont très difficiles à fermer. Vraiment très difficiles. Alors, abstenez-vous de donner toujours votre avis, même quand vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui devrait être dit. Parfois, on a cette sensation que, non, mais il faut que je lui dise, il faut que je lui dise, non, mais ça peut pas aller, il faut que je lui dise. Ben non, c'est vous qui êtes persuadé qu'il faut que vous les disiez, ces paroles. Mais ça va peut-être pas aider la personne en face. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Alors, on me dirait, oui, mais alors, dans ces cas-là, ben, je passe pour une hypocrite. Ben non, vous passez pas pour une hypocrite. Si la personne vous demande pas votre avis, vous passez pas pour une hypocrite, on vous demande pas de mentir. On vous demande pas de dire quelque chose que vous ne pensez pas. On vous demande rien. Vous pouvez pas passer pour une hypocrite. On ne vous demande rien. Et si on vous le demande, eh bien dans ces cas-là, l'avis devra être motivé par la vérité, par la sincérité et par l'amour. Pourquoi aimons-nous tant donner notre avis comme ça? Bah, en France, on aime discuter, on aime débattre. Donc, on aime exprimer nos opinions, on aime donner notre avis sur tous les sujets. On aime parler de tout, mais il y a quelque chose dont on raffole, c'est de parler de religion et de politique. Alors là, ça, on adore. Donc, on aime le son de notre voix quand on parle politique, quand on parle religion. On aime ça. Et alors, quand on est dans ce genre de conversations, qui sont, je vous le rappelle, ni utiles, ni motivé par l'amour, ni sincère, parce que je connais très peu de gens qui parlent de politique en étant vraiment sincère et motivé par l'amour. Voilà, qu'est-ce que c'est ? On aime le son de sa propre voix, on aime se sentir au milieu d'un débat, on aime se sentir au milieu du truc, on aime se sentir concerné, écouté. Alors là, on parle, on débat, on parle fort, et mon mari, quand il s'emballe, dès qu'il commence à parler d'un truc un peu, voilà, tac, le son de sa voix augmente. J'ai remarqué ça ? Quand il s'emballe, hop, le niveau sonore augmente d'un coup, voilà. Voilà, et voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on s'emballe. On adore ça en France. Mais tout n'est pas utile, encore une fois, tout n'est pas utile. À ce moment-là, en général, quand on est dans ce genre de conversation, nos paroles sont très peu sages. Très peu sages. C'est une réalité. Faites l'essai la prochaine fois que vous allez vous emballer dans un discours, vous verrez, les paroles prononcées sont très peu sages. La langue est si près du cerveau et nécessite si peu d'énergie pour fonctionner. C'est comme je vous disais tout à l'heure, parfois elle fonctionne toute seule, on se met à parler, mais on contrôle rien en fait. On contrôle rien. Presque elle fait le truc toute seule. Comme il est facile de discourir pendant des heures. Jacques 3:1 nous avertit que l'enseignement est un acte sérieux. Alors là par contre, écoutez bien. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Les enseignants seront jugés avec un jugement plus strict. Alors quand on entend ce verset, quand on lit ce verset, on se dit, bon, ça va, c'est cool, moi je suis pas enseignante, donc je ne serai pas jugée plus sévèrement que les autres. Ben, détrompez-vous, on est tous enseignants à un moment ou un autre de la journée. Moi je suis en ce moment enseignante, mais je suis aussi enseignante quand je parle à mes enfants. Je suis enseignante quand je discute avec des amis sur un sujet donc sur lequel justement je débat. Quand je donne mon avis, j'enseigne quelque chose. Quand j'exprime une opinion, on est tous à un moment donné de la journée dans un endroit comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on est tous enseignants. Là, Jacques nous dit attention, Attention, quand vous êtes dans ce rôle-là d'enseignant, quand vous avez l'oreille de quelqu'un, faites attention à ce que vous prononcez, parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à moins de n'être sûr de ce qu'on raconte, mieux vaut ne pas donner de leçons à qui que ce soit. Vous comprenez ? Mieux vaut ne pas se mettre dans les pantoufles de l'enseignant si on ne veut pas être jugé. Plus sévèrement que les autres, je veux dire. Dans tout acte d'enseignement et dans n'importe quel contexte, nous nous trouvons tous à un moment donné dans ce rôle-là, l'enseignant, l'enseignement. Qu'il s'agisse d'une conversation amicale, comme on vient de voir, ça concerne aussi les médias. Quand les plus jeunes d'entre nous vont sur les blogs, enfin, pas que les plus jeunes d'ailleurs, je connais plein de gens qui vont sur des blogs, donc vous savez tout ce que c'est un blog. C'est, voilà. Donc quand vous donnez votre avis, quand vous discutez, souvent on est sollicité sur un sujet sur les blogs. Bon, bah, quand vous donnez votre avis, vous vous positionnez en tant qu'enseignant. Donc faites attention à ce que vous racontez. Vous vous placez en tant qu'enseignant quand vous répondez à ça. Quand vous mettez un commentaire sur Facebook, tout le monde connaît Facebook. Quand vous mettez un commentaire sur Facebook, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous vous placez en tant qu'enseignant. Nous devons prendre au sérieux notre responsabilité de dire la vérité et de faire le bien. Être sincère et aimer son prochain. Ça doit être les deux choses qui motivent toute parole qui sont prononcées. La langue est si difficile à contrôler que Jacques utilise la maîtrise de soi dans la parole comme unité de mesure pour déterminer la maturité spirituelle de quelqu'un. C'est énorme, non ? Apprenons à discipliner notre discours afin de ne pas être jugé trop durement. Un feu allumé par les flammes de l'enfer, c'est ce que Jacques appelle un discours incontrôlé. Un feu allumé par les flammes de l'enfer. La pensée est un acte interne, tandis que la parole est un acte externe. Notre bouche est donc une porte. Faites attention à ce qui en sort. Dans une culture où nous pouvons parler au monde entier par l'intermédiaire des médias, s'il vous plaît, et particulièrement les jeunes, ne dites pas tout ce que vous pensez sur les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas le dire vous-même, ne likez pas. Ne partagez aucun mot, aucune vidéo, aucune information que vous ne pourriez pas défendre vous-même devant quelqu'un. Cette semaine, j'ai réalisé, parce qu'on va tout, enfin, je sais que beaucoup de monde va sur Facebook, moi j'y vais, hein. Donc je like des trucs, je partage d'autres trucs. Je publie pas beaucoup, mais je like beaucoup. Sauf que j'ai réalisé qu'il y a des trucs que je like, mais je sais pas s'il fallait que je le défende là, derrière le pupitre, je le likerais autant. Vous voyez ? Il y a des choses que je partage, je ne sais pas si je pourrais les dire. Je trouve ça, sur le coup, ça me paraît bien, mais est-ce que c'est quelque chose que je pourrais défendre devant Jésus ? Est-ce que au jour du jugement, quand il va me dire « Ah, regarde, t'avais liké le truc, là, vas-y, explique-moi. » Est-ce que je pourrais être capable d'expliquer ça ? Pas toujours, en réalité. Donc, je vais liker nettement moins. Et puis, franchement, les réseaux sociaux, c'est potentiellement le monde entier, vous êtes d'accord avec moi ? Les réseaux sociaux, voilà, ça n'a aucune limite, aucune fin. Donc, est-ce que tout le monde est vraiment édifié quand je like un coucher de soleil tibétain posté par quelqu'un en Amérique du Nord que je connais même pas, quoi, et que je sais pas comment cette photo, aussi magnifique soit-elle, paf, elle arrive sur ma page. Donc je trouve ça beau, je like. Alors je like un endroit que j'ai jamais vu, publié par quelqu'un que je connais pas. Vous vous rendez compte le ridicule de la situation ? Voilà, encore une fois, donner son avis. Mais en fait, le monde entier s'en fiche pas mal que je like ou pas cette photo, quoi. Mais voilà, encore, donner son avis. Tout n'est pas utile. Mon avis, en fait, tout le monde s'en fiche, ça change pas le monde. Aimer, partager ou transmettre tout ce qui viole ou déforme l'enseignement de Jésus et de Jacques, c'est la même chose que de le dire soi-même. C'est-à-dire que si je partage une information prise sur les réseaux sociaux qui déforme ou qui donne une vision erronée de la parole de Dieu, ben, c'est comme si je le disais moi-même. Et alors là, la mayonnaise n'est pas du tout pareille, quoi. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. La sincérité dans ce qu'on dit. Le village où nous partons en vacances, Ascros, vous avez souvent entendu parler d'Ascros, on a un sport national préféré. Donc, c'est-à-dire que sur la place du village, il y a des tilleuls et sous les tilleuls, il y a des bancs. Et donc, c'est un endroit super stratégique hein, parce que c'est sur la place du village, donc tout le monde passe par là, c'est juste à côté de l'auberge, donc tout le monde y passe à un moment donné. Enfin bref, c'est la route principale du village. Bref, c'est stratégique, ces bancs. Et donc, le sport favori, bah, c'est de faire du banc. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui quand on rencontre ma cousine l'après-midi? Tiens, qu'est-ce que t'as fait ce matin? Oh bah j'ai fait du banc. J'ai fait du banc avec un tel, on a fait du banc pendant une heure. Voilà. Donc faire du banc, en fait, bah c'est cancaner quoi. Bah là on s'assoit là, on fait du banc, donc alors comment ça va? Donc oui, bah oh bah tiens, tu sais pas ce qu'on m'a raconté? Bah puis t'as vu l'autre? Bah non mais regarde sa nouvelle coiffure et puis ah bah t'as vu le bar? Non mais il est toujours pas ouvert quoi. Il a toujours pas ouvert la cuisine, il est 11h30, mais qu'est-ce qu'on va manger quoi, tu vois? Imagine, voilà, on fait du banc. On cancane. Exactement. Mais ça, est-ce que tout est utile? C'est non seulement pas utile, mais c'est dangereux. La Bible a tout un tas de versets très édifiants sur le cancanage, justement. Le cancanage, ça n'est pas utile. Donner son avis, souvent négatif, sur la nouvelle coiffure de la voisine, ou faire des commentaires sur le fait que le gars du bar, il n'a pas ouvert à 11h30 alors que son service commence à midi, c'est pas utile. Sans compter que ben, ce gars-là, peut-être que ce matin-là, il a eu un problème grave. Ce qui explique qu'il arrive qu'à 11h30. Voilà. Motivé par l'amour, on doit dire les choses telles qu'elles sont, motivées par l'amour. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le pire, dire ouais, bah, 11h30, il va pas aller loin avec son bar, hein. Eh ben non, on peut tout simplement se dire, bah tiens, c'est peut-être passé quelque chose. Voir le meilleur chez l'autre, voir le meilleur dans chaque situation, motivé par l'amour, des avis, des paroles motivées par l'amour. Mais bon, à bien y réfléchir, je me suis dit cette semaine finalement, ce banc, c'est l'ancêtre de Facebook. C'est la même chose. On fait la même chose sur le banc, hein, Ascros, que sur Facebook. On like pas, on partage ou on partage pas, on met des commentaires ou on n'en met pas, des commentaires désagréables, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà. En fait, l'ancêtre de Facebook est à Ascros, sous le tilleul. On doit vraiment faire attention aux nouvelles que nous partageons au sujet des uns et des autres ou au sujet des situations. Quelqu'un a dit, il n'y a qu'une seule chose aussi difficile à faire que de décortiquer un œuf dur, c'est de ne pas répandre une rumeur. Sympa ça, hein ? Les ragots sont destructeurs et subtils. Quelqu'un qui commence une conversation par « Ah, tu sais pas, t'as pas entendu ?» Fuyez. Fuyez. Parce que vous avez entendu, t'as pas entendu, t'es pas au courant. Ça veut dire que la personne rapporte quelque chose auquel elle a pas assisté. Vous allez entendre, intégrer une information que vous n'avez pas vue, pas vérifiée. Donc, de toute façon, si vous entendez ça et que vous le répétez, ce ne sera ni sincère, ni motivé par l'amour. Donc, t'as entendu, t'es pas au courant. Fuyez à toutes jambes. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ragoter, je sais pas si le verbe existe. Ragoter, c'est une façon de tromper l'autre en lui faisant croire que vous êtes au courant de choses qu'elle ne sait pas encore. C'est juste ça, ragoter. Répéter quelque chose qu'on n'a pas vérifié soi-même. Des paroles vaines, sans sincérité et sans amour. La Bible nous avertit pourtant sur le sujet. Celui qui répand la calomnie dévoile des secrets, dévoile des choses que les gens n'ont pas forcément envie qu'ils se sachent. Le rapporteur divise les amis dans Proverbe 16. Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'il y a de plus vient du malin, dans Matthieu 5. Les gens doivent pouvoir croire ce que vous dites. S'ils peuvent pas croire ce que vous dites, s'ils ont le moindre doute sur ce que vous allez leur raconter, c'est fichu, vous perdez votre temps. Passez votre chemin. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, ne restez pas là ce matin. C'est inutile. Je me présente devant vous parce que j'ai vérifié ce que je dis, parce que c'est sincère et parce que c'est motivé par l'amour. Si vous n'en êtes pas convaincu, n'écoutez pas ce que je vous dis. Et c'est la même chose avec tout le monde. Éphésiens 4, 29 dit « Il ne faut pas que de votre bouche sortent des paroles pourries, mais seulement ce qui est bon pour l'édification de quelques-uns dans le besoin, afin de donner la grâce à ceux qui entendent. La Bible nous met au défi d'utiliser nos paroles pour aider les gens. C'est pour ça que la parole nous a été donnée. C'est aussi pour ça que Jésus est venu et a parlé, pour aider les gens, pour nous aider. Pour construire les autres, pas pour les détruire. Nos paroles peuvent avoir un effet incroyablement positif à l'inverse. Combien d'entre nous, quand on se sent pas trop bien ou pas trop en forme, on appelle une amie, un ami cher, et une simple conversation avec elle change votre journée. C'est ça, c'est à ça que servent les paroles. Ne sous-estimez pas la valeur d'un mot encourageant. Si vous n'avez rien d'édifiant à dire, encore une fois, abstenez-vous. Et surtout, ne donnez pas votre avis inutilement sur un tel ou telle situation. Alors, si vous pensez que, bon, vous avez peut-être besoin de quelques changements dans la façon dont vous utilisez votre langue, petit muscle qui se trouve entre là et là, et si vous voulez savoir comment vous y prendre, voici quelques petits points qui aident. La transformation de la langue commence par un changement dans le cœur. Matthieu 15, 18 nous dit « Ce qui sort de la bouche vient du cœur et cela souille un homme. » Le cœur influence la langue, mais quand elle est pleine de colère, d'égoïsme, d'envie, d'orgueil et de toutes les autres choses laides qui peuvent envahir notre cœur, nous sommes affectés dans tout ce que nous faisons. Renouveler nos pensées, comme nous l'avons vu plus haut, en passant du temps dans la parole, c'est la seule façon. Notre vision des choses doit être transformée. Au lieu de chercher le négatif dans une situation, instinctivement on cherche le négatif, c'est ridicule. Cherchons plutôt le meilleur, tout de suite, que ce soit un réflexe. Cherchons le positif. Au lieu d'être préoccupés par notre propre intérêt, nous devons nous concentrer sur l'intérêt de l'autre. Toujours chercher l'intérêt de l'autre. Changer nos cœurs est un bon point de départ. Nous devons réfléchir avant de parler. La Bible enseigne, mes frères bien-aimés, comprenez ceci. Chacun doit être prompt à entendre, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dans Jacques 1. Évitez d'engager la langue sans engager l'esprit. Prenez un moment avant de parler, faites silence, aussi longtemps que nécessaire. Et enfin, si vous voulez savoir si vous pouvez dire quelque chose ou pas, posez-vous les questions suivantes. Est-ce vrai? Ce que vous allez dire, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce inspirant? Est-ce nécessaire? Et est-ce gentil? Si ce que vous allez dire ne répond pas à ces 5 critères, c'est que ça ne vaut pas le coup d'être dit. Voilà.